Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on profite de la chronique constitutionnelle pour demander à Patrick Taillon dans quelle galère il s'est lancé en acceptant de se joindre au comité des sages créé par le gouvernement Legault, comité qui se penchera sur l'identité de genre. Ensuite, notre prof Taillon fait ses vœux et offre ses cadeaux constitutionnels au Parti politique du Québec. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix, pendant laquelle notre chroniqueur offrira des vélos symboliques, lui, à chacun des partis politiques québécois pour Noël.
Émotionnel ou rationnel? Rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Et bonjour Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique et très érotisé par le vélo, disons.
Oui, turiféraire, comme tu le dis si bien.
Ah, turiféraire,
la véloconomie.
Oui, la véloconomie, on en parle aujourd'hui, mais un autre volet de la véloconomie dont tu ne m'as jamais parlé.
Non, et c'est ce qui est assez fascinant, Antoine, avec la véloconomie, c'est chaque fois que je pense que j'en ai fait le tour, c'est comme si j'ouvrais une porte vers un univers encore plus gigantesque. Alors là, je veux te parler de la véloconomie avec un aspect plutôt de véloconomie sociale, la vélo-philanthropie.
Ah oui?
Et c'est vraiment une évolution des cultures. Hein. Avant, par exemple, pour faire du financement, pour essayer de trouver des fonds pour des causes, il y avait la grande époque des télétons.
Hein. Oui.
Il y en a eu pour la sclérose en plaques, il y en avait pour la recherche sur le cancer, sinon il y avait des tirages, des kermesses, etc. Bizarrement ou heureusement, depuis plusieurs années et de plus en plus, ce que l'on voit, c'est l'arrivée du vélo comme vecteur de... pour essayer de convaincre les gens de participer à travailler pour lever des fonds. Mm-hmm. C'est les cyclo-défis, c'est les défis de telles choses, tout ça avec du vélo. Je t'en nomme quelques-uns, par exemple, le défi 24 heures de vélo de montagne, la course, qui est dans le coin de Terrebonne. Il y a le tour CIBC Charles Bruneau, qu'on connaît bien sûr. Le tour, et même les policiers, par exemple, les policiers de Laval ont leur tour cycliste. Les policiers de Montréal en ont aussi. Il y en a, ça va te faire rire, la Fondation du Rhin, eux, il y a le tour de Rhin pour avancer des fonds. Et quand je regardais ça, regarde, là, les montants sont assez impressionnants. Là.
Ben oui.
À Terrebonne, là, pour le défi 24 heures de vélo de montagne, c'est au profit de la recherche pour l'autisme. Ils ont ramassé 210 000 $, ce qui était plus que leur objectif. Le Tour Charles Bruneau, selon les années, c'est 3 point quelques millions, 4 point quelques millions. C'est beaucoup d'argent. Par exemple, tu vas avoir le Tour du Courage, là, lui, pour le cancer de la prostate, ramassé en 11 ans 500 000 $. Il y avait le cyclo-défi Enbridge, qui maintenant là, n'existe plus. Il était en Ontario et au Québec. Là, on parle de 30 millions de $ ramassés à travers le Canada. C'est des sommes gigantesques.
Wow.
Et je regardais ça rapidement, là, annuellement, par le vélo, on ramasse pour des causes qui vont soutenir des instituts de recherche affiliés à des hôpitaux, sinon la Fondation pour l'enfance, Opération Enfant-Soleil, des organismes qui vont soutenir le sport amateur ou la jeunesse. On va ramasser au Québec annuellement. Puis là, mon évaluation, elle est conservatrice, au moins 15 millions de $ par année. Alors, c'est comme si maintenant...
C'est ton évaluation?
En fait, je...
Ou tu es allé chercher des chiffres?
Non, j'ai les chiffres de tous ceux que je vous ai nommés. Puis là, j'additionnais ça, puis on arrive rapidement au-dessous de 10 millions. Quelqu'un vient juste de m'en envoyer, puis je me dis, oups, j'avais oublié 2 millions ici. Et je ne les ai pas tous répertoriés, parce qu'il y en a de plus en plus.
Ben oui, ici à Québec, on a le CHU de Québec. On a eu aussi Centraide. Moi, j'ai déjà fait le 100 km de Centraide ici à Québec.
Oui, c'est vraiment devenu une espèce de nouvelle méthode de créer un engouement à la fois pour l'activité physique, une activité en groupe, et que les gens disent, ben, pour participer, je dois aller voir mon entourage à moi pour aller chercher des fonds. Et là, c'est comme si tout le monde devient le patron ou un parrain d'une cause. Et c'est fascinant de voir combien le vélo est devenu probablement un des véhicules principaux du financement caritatif au Québec.
Oui, il y a des marches, il y a toutes sortes d'autres trucs, mais c'est vrai que le vélo, ça, comment dire, c'est devenu une façon de faire des campagnes de financement qui est assez efficace. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une liste, une compilation exhaustive.
Ben moi, je pense qu'on va arriver là, dans les alentours d'au moins 20 millions de dollars par année, là, si on les a tous. Et je me disais, c'est quand même extraordinaire parce que c'est tellement l'inverse de... Tu sais, le Téléthon, qui est très passif, là.
Ouais.
T'es assis chez toi, puis à un moment donné, tu finis par être convaincu que la cause est bonne, puis là, t'appelles, puis tu donnes. Là, c'est tu te danses un défi physique personnel, 100 km, 500, voire même plus, et tu mobilises ton écosystème à toi, tes amis, ta famille et autres, au profit d'une cause. Je me disais, tabarnouche, qui aurait dit que le véhicule de financement par excellence est sur deux roues?
Ben oui.
Je trouvais ça...
C'était bien le 100 km de Centraide ici à Québec. Malheureusement, ça ne se tient plus, mais c'était les policiers de Québec qui nous ouvraient la route. Il y avait les gros Harley-Davidson devant. On n'arrêtait jamais.
Ben ça,
c'était fabuleux. Ça arrive jamais. Là,
ben c'est comme le Tour de l'île. Il y a un côté libérateur extraordinaire de rouler sans même arrêter à des stops. Ouais. Là, maintenant, tu sais qu'on en avait parlé. Tu pourras ouvrir la marche vélo avec des Harley, mais des Harley qui sont des vélos.
Ben oui, t'as raison.
Alors, tu vois, tout est dans
On aurait pu dire aux policiers, prenez des Harley Davidson électriques, donc des vélos, comme on en a discuté récemment. Évidemment, tu as gardé un des plus connus pour la fin, le grand défi Pierre Lavoie.
Oui, mon compatriote. Il n'y a pas de lien de parenté, à part qu'on est du même royaume. C'est quand même assez extraordinaire. Écoute, le grand défi Pierre Lavoie, a ramassé à peu près 25 millions depuis ses débuts, ce qui est beaucoup de sous, tout ça pour la recherche des maladies pour les enfants. Et là, la formule va peut-être changer, c'est ce que je comprends.
Oui.
Ben, d'ailleurs, je pense que Pierre Lavoie lui-même parlait des changements possibles. C'était pas en juin dernier qu'il en parlait. Écoutons-le.
Oui, c'était à LCN.
Bien entendu, rien ne s'arrête. Nous travaillons présentement sur... Que sera la suite du mille? Nous allons poursuivre avec des actions durables pour la santé des Québécois, mais également des actions durables pour l'environnement. Nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. On doit montrer l'exemple. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours.
Même en mettant en arrêt notre événement moteur pour le bien de cette planète.
Alors, c'était en juin dernier, c'est Pierre Lavoie qui dit qu'il faut arrêter pour le bien de cette planète. Hein, il y avait beaucoup de critiques sur les émissions de gaz à effet de serre lors du défi Pierre Lavoie.
Bien, ça, c'est à cause de l'écosystème d'accompagnement. Puis, il faut reconnaître aussi que 1000 km, là, c'est une grosse bouchée. Là. C'est pas tout le monde qui pourrait se lancer là-dedans.
Ouais.
Alors, peut-être qu'il va y avoir une solution à la Berkshire Hathaway, là, la compagnie de Warren Buffett, où ils avaient décidé de créer des actions qui coûtait moins cher juste parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter une action à 200-300 000 $. Alors, comment on fait? Bien, on fait plus d'actions pour démocratiser la barrière d'entrée. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs défis dans la suite avec des plus petits kilomètres, avec un entourage peut-être moins grand? Mais on voit que c'est un véhicule de campagne de financement hyper efficace. Alors, j'ai hâte de voir quelle va être la modification retenue, mais il faut que ça continue, là.
Deuxième de tes trois sujets, vos vêtements de vélo par un entrepreneur qui vient de la haute couture.
Oui, et tu vois, vraiment, les voies qui mènent à la véloéconomie sont nombreuses et infinies. J'ai découvert, rencontré et je suis allé visiter un autre vélo-entrepreneur.
Mm-hmm.
Et lui, il est à Rosemont. Il s'appelle Nolin Coder. Et sa compagnie, c'est
Aucun
de Nolin.
Lien avec Denis?
Non, je ne penserais pas, là.
OK.
Non, Antoine, vraiment pas. Okay. Alors, la compagnie s'appelle De Nolin et lui, c'est un peu l'homme orchestre passionné derrière ça. Sa spécialisation, ce sont les vêtements de pluie,
okay,
particulièrement pour le vélo puis un peu d'autres plein air. Et tout ça prend racine dans sa formation en mode et en design. Alors, quelqu'un qui a été dans le monde de la haute couture, il a travaillé avec Philippe Dubuc, dénommé Vincent, donc des grandes marques. C'est un passionné de plein air puis il trouvait que les vêtements, lorsqu'il y a de la pluie, n'était pas exactement à son goût. Mmh. Alors, il s'est lancé là-dedans. Puis aujourd'hui, il fait des vestes, des mitaines, des moufles pour l'hiver, là, pour se cacher les mains,
mais oui,
des pantalons. Écoute, j'ai vu ça, c'est assez extraordinaire. Il y a du génie de design là-dedans. Mais ce qui est particulièrement exceptionnel, c'est que c'est sur mesure. Alors, tu sais, là, imagine, là, Antoine, t'as toujours eu ton vêtement qui est juste un peu trop court au poignet ou les épaules sont trop larges parce que là, tu voulais avoir la bonne longueur de manche. Là, tu te dis, tant qu'à m'habiller, je vais m'habiller sur mesure, même dans mes vêtements. Et ils sont, je dois l'avouer, là, passablement magnifiques. Là.
Il dit ça, mesdames et messieurs, avec ses boutons de manchette et ses chemises signées.
Bien, évidemment. Évidemment, sinon, je vous dis ça. Faut que je sache qui je suis. C'est la seule manière que je peux me souvenir mon nom.
On voit que tu es érotisé par le côté que c'est sur mesure, là, les vêtements de vélo.
Pourquoi s'en priver? C'est pas vraiment plus cher, d'ailleurs.
On termine en rigolant. Tu veux donner des vélos pour Noël? Justement, la semaine passée, les parlementaires se sont donné des cadeaux et c'était très drôle les uns aux autres. Et toi, tu veux, là, maintenant, donner des vélos Noël à chaque chef de parti.
Ben oui, comment terminer notre partie. Année de lundi vélo? On parle de l'économie du vélo. Puis il y a des messages politiques là-dedans. Alors je me disais, si le Père Noël remettait des vélos aux différents partis politiques à l'Assemblée nationale et à certains élus, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que tous les vélos ne sont pas égaux entre eux. Là. Il y a plein de variétés là-dedans. Alors commençons par le Parti libéral du Québec. Lui, je pense qu'il faut lui donner un vélo festif.
Ah
est-ce
bon?
Que tu connais ça?
Qu'est-ce que c'est un vélo festif?
Festif, c'est des vélos où tu peux embarquer là, 20 ou 30 dessus. Là. Alors, je me disais, ce serait quand
il
même...
Il serait pogné pour avancer dans la même direction.
Ce serait non seulement exceptionnel, mais peut-être même unique dans, pour Marc Tanguay. Tous les députés qui vont au même rythme et dans la même direction. C'est le cadeau ultime. Tu sais, imagine combien Marc Tanguay serait heureux de ça. Alors, ce serait un vélo festif pour le Parti libéral du Québec.
Pour Québec solidaire, maintenant?
Mais là, je me disais, peut-être à l'image des derniers mois, un vélo stationnaire.
Oui.
Peut-être pour
parce
s'entraîner.
Ça stagne.
Oui. Oui, là, on fait un peu de surplace, mais c'est une manière de se mettre en forme.
Ah, hein, c'est
après
vrai.
Ça, quand on sera prêt, on va graduer à un autre genre de vélo.
Pour Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois maintenant?
Bien, comme ils arrêtent, clairement, là, ils ont un peu le vent dans les voiles, le vent dans le dos. Alors, un vélo cargo, hein, parce que ça permet de mettre plus de choses, c'est utile pour amasser plus de choses au fil qu'on avance, mais attention, c'est plus délicat sur l'équilibre.
Hein. Ah.
Plus on met de poids, plus l'équilibre est plus difficile. Alors, prometteur, mais il va falloir voir est-ce qu'on pourra passer ce test-là.
Évidemment, tu ne nous as pas parlé du gouvernement.
Mais alors, pour la CAQ ou François Legault, je me dis non, pas un vélo. C'est pas un vélo que je vais leur offrir. C'est un accessoire ou une pièce de vélo, un guidon. Hein, ça aide pour savoir où est-ce qu'on veut aller.
Oui, lui-même qui dit qu'il a perdu sa boussole.
Alors, imagine François Legault qui pourrait dire, parce qu'il prend beaucoup de phrases de Jean Charest ces temps-ci, pourrait dire, nous aurons un gouvernement qui a les deux mains sur le guidon.
Oui, exactement. C'est bon. Gabriel Nadeau-Dubois, maintenant.
Mais tu sais, il y a un nouveau genre de vélo. Ça s'appelle un vélo de gravelle. Alors, c'est ça que je veux lui offrir. Ça va être utile pour sortir du plateau Mont-Royal et aller voir comment ça se passe à l'extérieur.
Peut-être en Abitibi.
De Montréal. Alors ça, il y a besoin d'un vélo de gravelle.
Éric Duhaime, lui, le chef du Parti conservateur.
Bien, on lui souhaite un unicycle.
Ah.
Pas juste pour lui, mais il faut qu'il se trouve un député à l'Assemblée nationale.
Oui.
Alors, avec un unicycle, il peut peut-être y arriver.
T'es gentil, quand même. C'est vraiment fin. Monsieur Fitzgibbon?
Alors, on en avait parlé. Moi, je veux lui offrir le vélo off the grid. Tu sais, c'est ce vélo de spinning qui produit de l'électricité que tu peux, en la branchant direct dans le mur, redonner de l'énergie à Hydro-Québec.
C'est
alors
bon,
ça. C'est la totale.
Ben
c'est le bonheur absolu pour Pierre Fitzgibbon.
Il faut que tous les Québécois en achètent un.
Hein? Exactement.
On termine par Éric Girard, le ministre des Finances.
Oui, alors lui...
Le ministre des Kings.
Le ministre du hockey.
Ouais.
Alors lui, on va lui donner un vélo à pneus surdimensionnés, le Fat Bike, le VPS.
Oui.
Entre autres, pour qu'il voit que c'est possible de faire du sport l'hiver sans que ça coûte 5 à 7 millions.
Ah, c'est bon ça.
Alors,
j'espère qu'il va en prendre bonne note. D'ailleurs, on ferait des économies... des économies de dépenses publiques. Merci beaucoup.
On appelle ça de la vélo-économie de dépenses publiques.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, expert en politique publique et turiféraire du vélo, vraiment, aujourd'hui. Et on se reparle jeudi.
Au plaisir.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Tarion.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, ici en studio, c'est formidable, ça fait longtemps.
Oui.
Mardi dernier, la ministre Suzanne Roy a annoncé ta nomination sur le comité de réflexion sur l'identité de genre, le comité des sages. On en avait parlé, toi et moi, au mois de septembre. Tu avais fait beaucoup de lectures cet été, notamment des controverses au Canada anglais qui n'avaient pas à ce moment-là eu beaucoup de répercussions ni d'écho ici au Québec. Tu avais des positions nuancées là-dessus. Et là, je pourrais te poser une question très simple. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Dans quelle galère t'es-tu lancé?
Ça fait longtemps qu'on se connaît, Antoine. Alors, oui. Tu sais que je ne sais pas vraiment comment dire non dans la vie.
OK.
Et que j'aime bien... au fond, il y a du service public partout, hein, à l'université, avec les médias. Quand les gouvernements ou les partis politiques appellent, j'essaie d'être au rendez-vous. Alors, sur cette question-là, évidemment, j'aurais pas accepté avant d'avoir lu le mandat. Je pense qu'une partie... des reproches qu'on fait à la formation du comité peuvent en tout cas trouver une explication dans la nature même du mandat.
Okay.
Je pense que c'est important de comprendre que le comité, en tout cas c'est la lecture que moi j'en fais, n'est pas là pour dire au Québec quoi faire. Il est là pour documenter d'abord l'écart entre ce qu'on pense qui se passe puis ce qui se passe vraiment.
Oui, oui, oui.
Pour éviter que, peut-être comme dans certaines provinces canadiennes, on commence à s'inventer des problèmes qui n'existent pas. Donc, mm-hmm. qu'on regarde vraiment c'est quoi qui se passe, puis en réalité, qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, qu'on écoute tous les groupes, tous les points de vue, tous les intérêts en présence.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un guépier?
Oui, mais dans un contexte où les consultations ont lieu en privé, ben moi, je pense qu'on va pas tomber dans le piège de donner une survisibilité à, je sais pas moi, l'équivalent des Pinot Caron de la question 30.
Ouais,
là.
C'est ça.
Autrement dit, le mandat est conçu que les consultations ont lieu en privé et que nous, on rapporte dans un rapport, dans des mots qui, j'espère, seront plus rassembleurs, différents points de vue, différentes options. Et donc, à la fin, la mission semble impossible au départ, mais à la limite, moi, j'ai pas besoin d'être parfaitement en accord avec les autres membres du comité pour être capable de rapporter, dans un rapport destiné à la société puis au gouvernement, plusieurs options, plusieurs scénarios en disant, je te donne un exemple, sur les sports de compétition.
Oui.
Ben, les athlètes ont le droit de participer, ont le droit de pas être exclus. Mais en même temps, les autres athlètes qui ne sont pas trans ou non-binaires, ben, ils ont des intérêts, des préoccupations, des inquiétudes. Comment on gère ça, ici, ailleurs? C'est quoi les options? Parmi ces options-là, peut-être que le comité va parfois avoir des préférences, peut-être qu'il va le faire sentir dans son rapport, mais le comité va pas trancher, il va juste contribuer en documentant les options. Et le comité réalise son mandat avec le Conseil québécois LGBTQ qui pourra pleinement nous accompagner pour être bien certain que les options qui leur tiennent à cœur soient présentes dans le rapport.
J'ai une question un peu dure. Qu'est-ce que tu aurais pensé de la création d'un comité, mettons, par le gouvernement sur les affaires constitutionnelles dans lequel il n'y aurait aucun constitutionnaliste?
Et oui, alors... L'expression sage, c'est pas ma préférée.
Oui.
Elle a le mérite.
Mais je sais que t'es sage.
Mais elle a le mérite de dire que nous sommes ni des experts, ni des personnes directement concernées.
Ah,
je pense que c'est ça qu'il faut retenir derrière l'expression sage.
Et évidemment, tu n'annonces pas aujourd'hui que tu es en transition.
Non, mais je suis évidemment plus que jamais sensible à la situation que vivent ces personnes qui ont à trouver le chemin pour vivre pleinement leur identité de genre. Mais à terme, c'est un peu, hein, on a souvent à ce micro dénoncé les lacunes du processus de nomination des juges.
Hein. Oui.
Moi, le premier avec toi, j'ai attiré l'attention sur le fait que les juges étaient mal nommés. Je reçois la critique, c'est pour moi qui ai formé le comité, mais je l'entends et je la reçois, cette critique-là.
Oui.
Mais après, notre travail à nous, un peu comme les juges, c'est d'être pertinent par la manière dont on va produire des documentations pertinentes.
Mais il y a des chercheurs...
On nous jugera au résultat et on aura consulté les experts puis les personnes concernées.
OK, c'est ça. Il y a des experts là-dessus, il y a des chercheurs. À quoi peut bien servir un comité puis un rapport de plus sur la question? Parce qu'il y en a eu pas mal.
Ben moi, je pense que le plus important, c'est que la température était en train de monter là, avec les manifestations dans la rue. Alors, il faut trouver, et tu sais comment ça me préoccupe, là, trouver les bons lieux pour faire les bons débats. Donc ça, c'est peut-être une contribution que j'espère avoir dans le comité. Voir les enjeux qui sont sur notre route dans les prochaines années, pour les prisons, le sport, l'école, les contenus des programmes éducatifs, toutes les questions qui sont devant nous, et essayer d'identifier les bons lieux pour en débattre. Il y a une sphère d'autonomie privée, intime, qui appartient à chaque individu. Mm-hmm. C'est la sphère des droits fondamentaux. Il y a aussi une légitime place pour débat par les élus. Paul Saint-Pierre Plamondon réclamait une commission parlementaire. Donc, c'est quoi le domaine de la loi? C'est quoi le domaine du cas par cas? C'est quoi le domaine de la sphère privée de l'individu? Comment on organise, disons, une gouvernance harmonieuse puis que de cette question-là au Québec pour pas qu'on tombe dans la politique facile sur le dos d'une minorité qui est statistiquement peu nombreuse et qui est quand même assez vulnérable. Donc, trouver une façon de que toutes les préoccupations puissent se faire entendre, mais sans que ça devienne un enjeu de wedge politique, si je peux dire, devant mon oncle 101.
Oui, de politique de la division. Est-ce que ça pourrait être une manière pour le gouvernement d'enterrer le dossier?
Moi, je suis pas le gouvernement, mais je sais que la contribution qu'on espère laisser sur la route, elle est là à long terme. Donc, les options, les enjeux qui sont sur la route du Québec sur ces questions-là, hein, c'est des questions qui vont nous accompagner longtemps. Donc, si le gouvernement en place veut pas nécessairement agir dans le dossier, ben il y aura d'autres gouvernements pour l'avenir. Je peux pas présumer les intentions du gouvernement, mais en même temps, on peut pas dire deux choses contradictoires, que le gouvernement veut politiser le dossier puis se trouver une marge de manœuvre pour un programme caché, puis en même temps dire qu'il fait un comité pour rien, gagner du temps puis l'enterrer. J'espère que c'est ni un ni l'autre, mais moi, je suis pas le gouvernement, puis mon travail, ça va être de faire un bon rapport.
Te connaissant, tu vas avoir une préoccupation pour faire en sorte que ce phénomène-là soit pas judiciarisé. Je sais pas, c'est mon...
Ouais.
C'est mon sentiment.
Oui, mais il y a une sphère de l'intime.
Ça fait partie de ta sagesse.
Oui, il y a une sphère de l'intime qui relève sur ces questions-là de vraiment l'autonomie personnelle de chaque individu. Et il y a une sphère aussi pour les droits fondamentaux.
Ouais.
Mais c'est vrai que si le Québec est capable, comme sur l'aide médicale à mourir, sur d'autres sujets sensibles dans notre histoire... De trouver les bons lieux pour faire des débats sereins puis faire émerger des consensus paisibles et viables à long terme, effectivement, je préfère cette voie-là à une judiciarisation de ces questions délicates.
Passons maintenant à une partie un peu plus légère de notre chronique constitutionnelle d'aujourd'hui. Ben oui, c'est Noël. T'as quelques vœux de Noël constitutionnels pour les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale?
Des vœux, des cadeaux, en tout cas des souhaits, mes meilleurs souhaits. D'abord pour le Parti libéral, je croyais que le parti s'était offert un cadeau avec le rapport Pratt-Cadet. Oui. Évidemment, c'est un rapport que j'aurais voulu plus revendicateur, mais c'est tellement mieux que rien. Que c'est vraiment important que ce rapport ait des suites. Et je suis un peu inquiet de voir que c'est pas vraiment réglé. On semble avoir appris la semaine dernière que le rapport n'est qu'une proposition et que le parti va en débattre.
Alors, tout dépend du prochain chef.
Et en plus, tout dépend aussi.
Un jour, il y en aura peut-être un autre que Marc Tanguay.
Alors, j'émets le souhait, le vœu pour le Parti libéral. N'écartez pas trop vite le rapport Pratt-Cadet. D'ailleurs, c'est probablement la ligne de fracture au sein du parti entre ce que j'espère ne pas être que la vieille aile du parti qui voudrait parler de ces questions-là, puis un nouveau Parti libéral qui voudrait les mettre de côté, mais chose certaine, la voie vers
le pouvoir... Ces questions-là étant les questions
constitutionnelles, langue, identité, constitution, rapport au Canada, c'est central. Si le Parti libéral veut redevenir une option crédible au Québec, ils ne peuvent pas écarter le rapport Pratt-Cadet.
François Legault et la coalition Avenir Québec, maintenant?
Ah ben là, il est temps de constater pour le premier ministre que même si ça ne l'intéresse pas, la question constitutionnelle, les bons coups du gouvernement jusqu'à présent... Mais c'est des questions, du moins, identitaires avec des incidences constitutionnelles. Je pense au dossier de la langue, au dossier de la laïcité. Mm-hmm. Le Québec ne peut pas être qu'une grosse agence de la santé où l'on place 50 % de nos impôts puis une politique de fabrication de batteries, là.
Oui, c'est vrai. C'est,
François Legault est en vérité un post-souverainiste qui voudrait gouverner sans vraiment penser le rapport avec le reste du Canada. C'est oui. pas son... C'est pas là qu'il trouve son plaisir. Mais en 2024, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix parce que, avec la montée du Parti québécois, on l'a vu, quand il a eu des élans anti-référendaires, anti-référendum, ben, on a vu que ça l'a sonné très, très faux. Ça ressemblait à du mauvais Jean Chrétien.
Jean Charest.
Et du mauvais Jean Charest.
Ouais.
Et donc, ça l'a accéléré, à mon avis, le retour au bercail des caquistes post-souverainistes ou des caquistes ex-électeurs du Parti québécois. Donc, il faut pour Noël qu'il redécouvre son projet nationaliste, sa manière à lui de penser la relation avec le Canada.
J'en ai une copie, moi, celui de 2015. Là,
oui, bon.
Qu'il ne relit jamais.
Et il faut aussi... que face à l'élection fédérale à venir,
ouais,
faut que M. Legault ait des demandes. En ce moment, là, il demande moins au gouvernement fédéral puis aux partis que ce que faisait jadis le gouvernement Charest. Au moins, le gouvernement Charest demandait un strapontin, un conseil de la fédération, la lutte contre le déséquilibre fiscal. Là, dans le cas du gouvernement Legault, sur la langue, ça semble être réglé. Sur l'immigration, on n'en parle plus. Ils sont où les demandes du Québec? Oui. Est-ce qu'on va laisser le pouvoir à Pierre Poilievre sans aucune contrepartie à l'endroit du Québec? Ça m'inquiète beaucoup. Et M. Legault n'a pas le choix. Il doit penser son rapport au reste du Canada.
On s'est fait imposer un lieutenant-gouverneur, là, alors que, selon ta suggestion, il aurait pu avoir un vote à l'Assemblée nationale.
Une autre occasion.
Proposer une personne.
Une autre occasion ratée. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas des voix dans son propre parti. Simon-Jolin Barrette avait déjà présenté un projet de loi sur ces questions-là. Alors peut-être que M. Legault, si ça ne l'intéresse pas, ben, il doit trouver quand même une manière d'intégrer ces questions-là à sa politique.
Cadeau ou vœu à Paul Saint-Pierre Plamondon maintenant?
Ben, je leur souhaite, à Paul Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois, une véritable doctrine permettant d'expliquer ce qu'un gouvernement du Parti québécois ferait au lendemain d'une élection à 30 % ou d'une élection d'un gouvernement minoritaire. Que faire si un référendum n'est pas politiquement possible?
T'as raison, c'est une question, ça, qu'on posait beaucoup à André Boisclair.
Ben oui.
Si vous êtes minoritaire, en 2007, je me souviens, pendant les élections, si vous êtes minoritaire, qu'est-ce que vous faites?
Et les chances sont fortes, là. Les chiffres en présence présentement, c'est ça. Et donc, si Paul Saint-Pierre Plamondon arrive à répondre à cette question avec l'authenticité qu'on lui connaît, une alternance est peut-être possible. Hmm. Mais sinon, si ça sonne comme la vieille cassette péquiste de la pensée magique, il suffit de le vouloir, très référendiste, ben, je pense que les lendemains pourraient être difficiles.
Hum-hum. Québec solidaire, enfin.
Ben, je leur souhaite de devenir un vrai parti politique susceptible d'offrir aux Québécois une alternance. Et pour cela, c'est pas différent du Parti libéral. Il faut que le parti soit pas le parti d'une seule cause. Il faut embrasser tous les aspects de la gouvernance. Et donc, le rapport au Canada, c'est un aspect central et incontournable pour le programme de Québec solidaire. On les entend jamais ou trop peu sur ces questions.
Ça, Zanetti a fait adopter une motion pour l'abolition du lieutenant-gouverneur la semaine passée.
Oui, c'est une vision de ce que devrait être le Québec, mais c'est pas une vision de ce que les rapports que Québec doit entretenir avec Ottawa.
Mm.
Défendre l'autonomie du Québec, c'est supposé d'être contre les ingérences du fédéral.
Mm-hmm.
Or, c'est souvent le silence radio pour Québec solidaire lorsque le fédéral s'ingère dans le logement social, dans la politique de soins dentaires, dans les politiques de santé. Donc, à un moment donné, il faut, oui, défendre une vision progressiste. C'est ça la mission de Québec solidaire. Mais le progrès social, il faut assumer qu'il passe par le Québec,
ben oui,
pas par Ottawa.
Mm-hmm.
Enfin, Antoine.
Tu finis par deux suggestions télé.
Oui, c'est pour les auditeurs. Hein?
Oui,
les auditeurs sont en vacances, je leur souhaite de se reposer.
Là, tu me fais une fleur, c'est donc bien gentil.
Oui, alors première suggestion.
Les gens vont dire, hey, les deux têteux.
Ah non, non, au contraire.
Comité d'admiration mutuelle.
Première suggestion télé sur la chaîne Vrai, il faut voir absolument l'affaire Morin, pas seulement parce qu'il y a des scènes formidables avec Antoine Robitaille.
Un jeu dangereux. Claude Morin, un jeu dangereux.
C'est une série documentaire exceptionnelle. Moi, j'ai adoré de la première à la dernière minute. Il y a des scènes magiques où l'on voit un Claude Morin âgé, fragile, qui partage une partie inédite de ses archives,
oui,
et des sources exclusives. Mais c'est ça la beauté du documentaire aussi. C'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège de surestimer, de surdimensionner, je dirais, ces sources exclusives. Vous les mettez dans leur contexte, vous les questionnez, vous les challengez. Et bon, il y a des témoins de l'époque, là, plus grands que nature, juste pour écouter les entrevues avec Jean-Roch Boivin, Yves Duhaime, Marc Lalonde. C'est formidable. C'est tout un pan de l'histoire du Québec. Puis un des ministres les plus importants de notre histoire. Hein, moi, j'ai grandi en lisant les livres de Claude Morin, mes cinq premiers ministres.
Il faut les lire.
C'est un homme qui a conseillé tous les premiers ministres de la Révolution tranquille. Et à travers ça, je m'en cache pas. Je trouve que la série est géniale aussi parce que vous explorez certes toutes les pistes possibles et imaginables pour expliquer la vie et les choix de Claude Morin. Mais au final, je dois l'avouer, vous retenez, je dirais, la thèse, celle qui m'a toujours semblé la plus logique, et vous le faites avec une démonstration rigoureuse, vraiment, bravo.
Merci infiniment. Je remercie Dave Noël qui a été journaliste avec moi là-dessus, puis évidemment la réalisatrice Flavie Payette-Renouf.
Une autre suggestion télé, très oui. rapidement, sur l'application TV5 Uni.
Ben oui, je vais aller voir ça.
Vous pouvez télécharger, pour les mordus de constitutionnel, la meilleure série politique de l'histoire. West Wing, Borgen, House of Cards, c'est de la petite bière à côté du Baron Noir. C'est une série politique française réalisée et diffusée il y a quelques années que j'ai eu la chance de visionner. Il y a 3 saisons. La meilleure, c'est la 3e. Donc, au début, il faut accepter les 2 premiers épisodes. On fait un peu trop dramatique. Je pense qu'on veut imiter les Américains au début et faire un peu du mauvais House of Cards. Mais au bout du 3e épisode, c'est satisfaction garantie ou remboursement promis.
Le Baron Noir au TV5 Uni. Mais je vais aller regarder ça, c'est certain, pendant les fêtes. Merci infiniment, Patrick Taillon.
Merci, Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et sage aussi, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
Merci beaucoup, Antoine.
Merci. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.